Bon, ce matin, je continue une série de messages sur le livre de Josué. Notre objectif, toujours, est d'apprendre de Josué et du peuple d'Israël. Leur exemple nous enseigne des principes pour prendre possession de la vie promise en Jésus-Christ. Dans les cinq premiers chapitres du livre de Josué, Dieu prépare Israël pour la conquête. Mais ils ne sont pas encore prêts. Il y a encore une dernière leçon essentielle que Josué doit apprendre. Et cette leçon sera la clé de leur succès. À la veille de la conquête, Josué a une rencontre extraordinaire avec Dieu. C'est ce que les théologiens, je ne veux pas utiliser les grands mots, mais c'est ce que les théologiens appellent une théophanie. C'est l'apparition de Dieu dans une forme visible pour se révéler à son peuple. Ici, dans notre texte, Dieu se révèle à Josué sous la forme du chef de l'armée de l'Éternel. Donc, nous allons regarder ensemble. C'est juste trois versets pour ce matin. Josué, chapitre 5, versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et il regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, que dit mon Seigneur à son serviteur? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. Josué se conforma à cet ordre. Grâce à cette rencontre avec Dieu, la vie de Josué est transformée. Il comprend que c'est Dieu seul qui est le vrai chef d'Israël. C'est Dieu, le commandant en chef, qui leur donnera la terre promise. Donc, il est nécessaire de l'écouter et de lui obéir pour réussir. Et c'est pareil pour nous. Si nous voulons jouir de la vie promise en Jésus-Christ, nous devons lui donner la première place. Il doit être le capitaine de notre âme. L'exemple de Josué nous enseigne l'importance de cette vérité et aussi il nous montre le moyen pour le faire. Prions le Seigneur. Père Céleste, sois avec nous pour regarder cette parole. Tu as quelque chose à nous dire ce matin. Que tu donnes la capacité à chaque personne pour écouter, pour comprendre le passage. Que tu me donnes, Seigneur, la capacité pour m'exprimer en français, pour que ça soit compris et que tu utilises ce texte pour nous parler, pour nous transformer. Je prie en ton nom. Amen. Regardons verset 13. Le texte nous dit que Josué est près de Jéricho. Josué, il a quitté le campement à Gilgal, là où tout Israël était campé, pour faire une mission de reconnaissance. Et je suppose qu'il a fait pendant la nuit pour ne pas être vu. Et quand je lis le texte aussi, j'ai l'impression qu'il est tout seul. Le passage ne dit pas exactement pourquoi il est allé à Jéricho, mais ce n'est pas trop difficile, je pense, à deviner. Josué est le chef d'Israël. Il est le commandant de ses troupes. Il doit trouver un moyen pour vaincre son ennemi. Donc, il est allé à Jéricho pour voir son ennemi de près et pour déterminer un plan d'action. Alors, mettez-vous à sa place. Quelles sont les pensées qui passent pas sa tête. Peut-être il pense à ses troupes. Sont-elles assez nombreuses? Ont-elles assez d'expérience militaire pour cette conquête? N'oubliez pas que les Israélites sont des bergers nomades qui n'ont pas vu probablement des grandes villes fortifiées comme Jéricho. Ils étaient dans le désert pendant 40 ans. Peut-être Josué s'interroge sur sa propre capacité à diriger cette campagne militaire. Peut-être il formule dans sa tête lorsqu'il est là devant Jéricho pendant la nuit. Peut-être il formule un plan. Il regarde les murs. Il se casse la tête pour un bon plan de bataille. Comment peuvent-ils s'attaquer à Jéricho? Attaquer une ville fortifiée comme Jéricho est une chose pour laquelle Israël a peu d'expérience. De plus, il manque sans doute d'équipement tel que des catapultes. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais quelque chose comme ça. Des grandes échelles ou des béliers pour ce type de guerre. Ils n'ont que des épées, des flèches, des lances, des lance-pierres et même, Luc, des écharpes aussi, n'est-ce pas? Ah, ça, c'est... Je vous explique après. D'accord. Mais ce n'est pas suffisant pour la tâche qui les attend. Alors, comment va-t-il préparer son armée? Qu'est-ce qu'Israël doit faire pour prendre la ville? Alors, toutes ces sortes de pensées, ça passe dans la tête de Josué lorsqu'il est devant les murs, pendant la nuit, toute seule. Josué est responsable pour les vies de son peuple. Le poids de cette responsabilité lui pèse. Il pense que c'est lui qui doit trouver une solution. Il pense que c'est lui qui doit assurer la victoire. Sans doute, il se sent tout seul. Mais Dieu a une leçon importante pour lui. Lorsqu'il est perdu dans ses pensées, tout à coup, nous voyons dans le texte, tout à coup, il voit devant lui un guerrier puissant avec son épée dégagnée dans la main. Si c'était moi, je me serais enfoui, je pense. Mais pas Josué. Il est un homme courageux. Il est prêt pour la bataille, donc il s'approche du monsieur. Il lance une question logique. Il dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Mais la réponse du guerrier n'est pas ce qu'on attend. Il dit tout simplement non. J'aurais aimé avoir vu en fait l'expression sur le visage de Jésus. Mais ça, c'est quelle sorte de réponse? Non. Il n'attend pas un simple oui ou non. Il attend oui, je suis pour vous, ou non, je ne suis pas pour vous. Mais pas tout simplement non. Mais Josué va comprendre que celui qui lui parle est Dieu. Et qu'il y a une leçon importante derrière la question. En fait, Josué ne pose pas la bonne question. La question n'est pas si Dieu est pour Josué ou Israël. Ça, c'est un fait déjà établi. À plusieurs reprises, Dieu a déjà affirmé qu'il était pour Israël. Vous pouvez regarder dans les passages que nous avons déjà vus en Josué chapitre 2, chapitre 1, verset 2 et 3, verset 11, chapitre 2, verset 8, 14, 23, 24, chapitre 3, verset 10, chapitre 5, verset 6. Déjà, Dieu a dit que je suis pour vous, je suis avec vous, je vous donne la terre. Donc, la question n'est pas si Dieu est pour Josué. La véritable question consiste à savoir si Josué est pour Dieu. Si Josué est pour Dieu. C'est pourquoi le guerrier ne répond pas en fait à sa question. Il fait plutôt une déclaration. Et nous voyons là, au verset 14. Il dit tout simplement une déclaration. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. C'est comme s'il dit, Josué, tu dois comprendre quelque chose. Tu dois savoir que tu n'es pas le chef. Je suis le chef. C'est moi qui est responsable, pas toi. Tu dois savoir que c'est moi qui dirige. C'est moi qui te donne le plan de bataille. Tu casses la tête, mais c'est moi qui va te donner le plan de bataille. C'est moi, c'est par ma force que tu vas réussir. C'est moi qui va te porter et te soutenir. Quelle liberté cette déclaration doit avoir apporté à Josué. Le grand poids de la responsabilité de la réussite d'Israël est déchargé de ses épaules et donné à Dieu. Par cette rencontre, Josué reconnaît qu'il n'est pas le chef, lui. Il reconnaît que c'est Dieu qui est le commandant suprême. Il comprend la nécessité à suivre son chef en soumettant à son autorité, en prenant ses ordres de lui et en plaçant la bataille entre ses mains, car la victoire appartient à qui? L'Éternel, à Dieu, à Jésus, c'est ça. Ce sera une leçon très importante pour Josué. Nous allons le voir dans le prochain message. Mais même lors de la première bataille de la campagne militaire contre Jéricho, Dieu demandera à Josué d'exécuter un plan de bataille qui va défier la logique humaine. Josué devra faire confiance à Dieu, son commandant, en chef, et se mettre à lui. Et c'est une leçon aussi importante pour nous. Nous devons reconnaître que Dieu est notre commandant en chef. Nous devons nous soumettre à lui. Le résultat de cette soumission, et ce que je trouve glorieux, le résultat, c'est la liberté. Parce que Dieu nous prend en charge. Quand je me soumets à Dieu, quand je le fais le capitaine de mon âme, je trouve la liberté. C'est lui qui portera le poids de nos soucis, de nos péchés, de nos souffrances. C'est lui qui combattra les batailles de la vie pour nous et avec nous. C'est lui qui tracera le chemin pour trouver la vie abondante. Alors, la question que je vous pose, as-tu soumis ta vie à Jésus? Est-il ton commandant en chef, le capitaine de ton âme ce matin? C'est le seul moyen pour expérimenter la liberté et la vie promise en Jésus-Christ. Je vous donne une illustration. Pour quelqu'un qui a l'habitude de conduire, ce n'est pas facile d'abandonner le contrôle du volant et de remettre les clés à quelqu'un d'autre, pour vous les hommes qui avec vos femmes. Vous êtes dans la voiture, Emmanuel vous dit, bon, je te donne les clés, c'est toi qui conduis, moi je suis dans la place de passager. Ce n'est pas facile pour nous, j'ai le free flex, je veux mettre le frein, je veux... Le trottoir est trop proche, ou trop vite. Mais je dois avouer, c'est la même chose pour ma femme quand même, quand elle est dans la place. Donc je comprends. Mais fait de Jésus le capitaine de nos âmes, c'est de dire, Jésus, voilà la place de conducteur. Voilà les clés que tu conduis. Et moi, je prends la place de passager. Et il commence, Il met en marche la voiture, il commence à conduire. Et nous sommes là, je suis dans la place de passagère, il est là, le conducteur, et il continue. Et tout de suite, je vois qu'il met le clignotant, on dit, et il veut prendre la gauche, mais non, Jésus, ce n'est pas ça. Jésus, c'est tout toi que nous devons. Mais il me regarde, il prend la gauche, et c'est comme ça souvent avec Dieu. Peut-être nous avons dans notre tête que c'est tout toi, je vais faire comme ça. Mais il dit non. On va prendre la gauche. Nous ne savons pas ce qui est devant. Peut-être que c'est un embouteillage, un danger, je ne sais pas quoi. Mais prendre la gauche, la droite, quand je veux prendre. Et c'est ça, je mets ma confiance en lui. C'est lui qui est le conducteur. Parfois, je dis, mais Jésus, quand même, un peu plus vite, hein? C'est un peu long. Je me demande si c'était le cas pour Abraham. Vous savez, Abraham et Sarah, ils ont reçu la promesse de Dieu pour un enfant, un fils de promesse. Et c'était 25 ans. À certains moments, peut-être il a dit, mais quand même, Dieu, un peu plus vite, hein? Parce que, et parfois, nous voulons quelque chose, mais Dieu, il a son temps et son plan. Parfois, il s'arrête dans la route, parfois. Mais fait de Jésus le capitaine de nos âmes, c'est de donner les clés à lui, la place de volant. Il prend le volant et nous mettons notre confiance en lui pour le suivre. Bon, il y a une deuxième chose. Remarquez maintenant au verset 14, la réaction de Josué. D'abord, tout de suite, il tombe à terre, il adore Dieu. Son cœur est tellement libéré du poids de son fardeau et émerveillé par la grandeur de Dieu, il n'a pas le choix. Sa réaction naturelle est d'adorer Dieu. Puis, Josué pose une question, mais cette fois, sa question est bonne et juste. Cette fois, il dit quoi? Que dit mon Seigneur à ton serviteur? C'est cette question qui m'a vraiment touché dans le passage. Que dit mon Seigneur à son serviteur? C'est exactement ce que Dieu attend de lui. Josué veut savoir quel est le message que le chef de l'armée de l'Éternel a pour lui. Depuis des semaines, Josué se cassait la tête pour savoir comment prendre Jéricho. Maintenant, il regarde son chef, son capitaine, et il demande: quoi faire? Quoi faire? Le chef de l'armée répond au verset 15: enlève tes sandales et tes pieds de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. Josué, qui était le compagnon de Moïse, aurait compris tout de suite la signification de cette parole. C'est exactement la même parole que Dieu a dit à son maître Moïse devant le buisson ardent. C'est le moment où Dieu appelait Moïse à délivrer Israël de l'esclavage. Moïse était là et Dieu a dit exactement la même chose. Enlève tes sandales de tes pieds car l'endroit où tu te tiens est saint. C'est une expression de soumission à lui. Et qui était Dieu? Et Moïse, d'abord, que Dieu, il était en train de parler avec Moïse pour dire qu'écoute, Moïse, je t'envoie pour délivrer. Et Moïse, il avait, j'ai compté au moins 5 raisons pourquoi il n'était pas celui que Dieu a voulu utiliser. D'abord, c'est une question de son identité. Qui suis-je? Le texte dit. C'est une question de connaissance de Dieu. Mais je ne connais pas même ton nom, Dieu. C'était une question de foi. Peut-être il ne croit pas que ce que je dis. Et il a continué. Finalement, quand même, il a vu que tu es Dieu. Et Dieu, parce que Dieu a dit, c'est moi qui ai ta bouche. C'est moi qui sera avec toi. Je t'envoie. Il a mis sa confiance en Dieu. Et Moïse, il est devenu l'un des plus grands dirigeants que le monde ait jamais connu. Il était un homme qui était à l'écoute de Dieu, comme Josué. Cette question de Josué, Que dit mon Seigneur à son serviteur? Cette question marque la vie de toute personne qui a Dieu comme son commandant en chef, qui a Dieu comme le capitaine de son âme. Rappelez ce que nous avons vu au week-end d'église au sujet de Jésus, le bon berger, et de nous, ses brebis. Jean 10, 14 à 16, je le lis, écoutez. Jésus dit, « Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, ça c'est nous, d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Quelle est la marque des vrais brebis? Ils écoutent la voix. Comme Josué a dit, que dit mon Seigneur à son serviteur? Si Jésus est le capitaine de nos âmes, nous devons être à l'écoute de ce qu'il nous dit dans sa parole, la Bible. Avons-nous l'attitude de Josué? C'est la question que je pose. Disons-nous comme Josué, que dit mon Seigneur à son serviteur? Dans la Bible, notre capitaine nous montre comment vivre. Il nous présente un plan d'action pour faire face aux batailles de cette vie. Et si nous écoutons ou nous suivons ses instructions, quoi que ce soit le sujet, la langue, comment parler, l'argent, le pardon, la sexualité, le mariage, la colère, l'amour. Si nous écoutons tout ce qu'il dit et nous suivons ce qu'il nous dit, nous allons nous emparer de la vie abondante en Jésus-Christ. Ça, c'est une promesse. Écoutez ce que Jacques nous dit, le petit frère, demi-frère de Jésus, nous dit au chapitre 2, verset 25, dans son épître, il dit, je lis, « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » On va trouver la vie promise en Jésus-Christ. On va trouver la liberté, comme Jacques dit. Avant de terminer, je veux remarquer encore une leçon de l'exemple de Josué dans ce texte. Cette leçon se trouve dans la dernière phrase du verset 15, vraiment à la fin, qui dit « Josué se conforma à cet ordre ». Josué montre que Dieu est vraiment son commandant en chef par son obéissance. Ça en est la preuve. Dans la vie militaire, l'obéissance aux ordres du commandant est capitale. Les troupes qui ne suivent pas les ordres de leur chef, les troupes qui font n'importe quoi, seront vaincues dans la bataille. La réussite dépend de l'obéissance. Et Josué, en tant qu'homme militaire, comprenait ce principe. Par cet acte d'obéissance, il montre qu'il est prêt pour la conquête. Il est prêt de suivre ce que son chef lui demande. Et c'est pareil pour nous. Si nous voulons nous emparer de la vie promise en Jésus-Christ, nous devons obéir à Dieu. C'est si simple que ça. Nous devons obéir à Jésus. La vie promise se trouve dans l'obéissance à notre capitaine, Jésus. Et si tu dis, « Ah, mais c'est parce que c'est difficile. Je ne peux pas pardonner, ou je ne peux pas résister, ou je ne peux pas faire ce qu'il me demande, etc. » Sache qu'il est là à ton côté. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Il a tout le pouvoir dont tu as besoin. Si tu prends un pas vers l'obéissance, il va te donner la force pour prendre le deuxième pas, et le troisième pas, et le quatrième pas. Tu vas voir sa gloire et sa force se manifester en toi. Donc, décide-toi et prends le premier pas. Et là, le chef de l'armée de l'Éternel, il sera là avec toi pour t'aider de prendre encore des pas. Dans les cinq premiers chapitres du livre de Josué, Dieu prépare son peuple pour la conquête de Canaan, comme nous avons vu. Et maintenant, Israël est prêt. Sans doute, il y aura encore des leçons sur le chemin qu'ils vont apprendre, mais au moins, ils peuvent commencer. Et cette dernière leçon que nous avons regardée ce matin, en Josué chapitre 5, 13 à 15, était la dernière leçon, mais elle était la leçon décisive pour eux. Qui est le capitaine de mon âme? Josué, qui est le capitaine de ton âme? C'est moi qui vais te diriger. Grâce à cette rencontre avec Dieu, Josué est prêt à faire face à ses ennemis et à s'emparer de la terre promise. Josué nous montre notre besoin de reconnaître Jésus comme le capitaine de nos âmes, notre besoin d'écouter ce qu'il nous dit et notre besoin d'obéir à ce qu'il nous demande. En fait, s'il y a quelqu'un dans cette salle qui a besoin de ce message, c'est moi-même. Le Seigneur m'a beaucoup parlé. Souvent, je casse la tête. Je cherche de le faire les choses de ma propre force. Mais il est le capitaine. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Et dans sa main, son épée est dégagnée. Et nous devons mettre notre confiance en lui. Lui donner la première place pour le suivre. Et quand nous le faisons, nous pouvons prendre en possession cette vie qu'il nous promet en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Enseigne-nous. Je prie en ton nom. Amen.